BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Cédal Laverne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes députée de La République En Marche de la Drôme, mais vous êtes vice-présidente de la commission spéciale retraite à l'Assemblée nationale. Le texte, vous l'avez entre les mains depuis lundi, donc depuis hier. Et puis après, évidemment, à partir du 17 février, il y aura le débat dans l'hémicycle de cette réforme des retraites. Vous avez hérité d'un... D'abord, est-ce que vous êtes en colère ou pas? Est-ce que vous faites partie des députés de La République En Marche qui sont en colère, qui sont vent debout contre les propos tenus par le président de la République qui leur demandait un peu plus d'humanité à propos évidemment de cette affaire autour du congé parental pour un deuil d'enfant?
Alors, dans toute cette histoire, les premiers concernés, nous l'avons vu hier, ce sont les parents des enfants, les parents
oui,
endeuillés de
bien
ces
sûr,
enfants.
Bien sûr, mais là j'étais sur le plan politique
drame.
Après la déclaration
oui,
du
mais
président.
Oui, mais en fait, tout cela est politique. Le président nous a invités à travailler à leur côté. C'est exactement ça qu'il a dit, que nous devons travailler davantage.
À vous faire preuve
pour
d'humanité.
Simplifier, oui, comme ligne directrice, ce que nous faisions déjà, ce qui n'est pas une difficulté.
Vous avez voté
nous,
dans quel sens vous, pour que les choses soient
alors,
claires?
Alors moi, j'étais en circonscription sur les
mais
retraites.
Comme tout le monde, c'est drôle, oui.
Mais j'aurais voté comme mes collègues. Je crois qu'il y a eu un vote qui aujourd'hui a été très mal compris et nous avons sans doute nous-mêmes mal perçu l'impact qu'aurait pu avoir ce vote sur les Français. Vous savez, je travaille en circonscription dans la Drôme, justement, avec une association qui travaille au niveau national qui s'appelle Mieux Traverser le Deuil. Et régulièrement, on se dit justement que tout ne passe pas par la loi. C'est le sens, d'ailleurs, de la concertation hier entre les ministres, les deux ministres, les associations et nos collègues. C'est simplifier
c'est
la vie des parents endeuillés.
C'est une preuve d'immaturité politique, peut-être, de quoi?
Non, vous savez, c'est difficile d'anticiper toujours la manière dont est perçu certains votes.
Non, mais c'était bizarre peut-être de dire 12 jours, c'est un peu trop peut-être, et ça coûte trop cher aux entreprises, en plus
très,
ils n'ont rien demandé. Hein.
C'est surtout très injuste de se dire que si vous êtes dans le privé, vous avez le droit de prendre 12 jours pour vos enfants, et si vous êtes fonctionnaire, vous n'en avez que 5. Et donc on voit bien que la proposition telle qu'elle était, elle était, et nous avons exercé notre rôle de parlementaire, n'était pas adaptée, elle n'était pas juste. Et donc c'est sûr ce travail-là, que d'ailleurs une collègue, Sereine Mauborn, qui a été au pilotage, a fait un rapport, travaille depuis des mois avec les associations pour essayer de trouver des solutions sur les frais d'obsèques, sur le temps, l'accompagnement psychologique. C'est tous ces sujets-là, beaucoup plus larges, qui dépassent cette proposition de loi que nous devons travailler. Et c'est dans ce sens-là que nous avançons.
D'accord, ok, enfin, vous avancez, mais on a vu que c'est un peu compliqué, hein, puisqu'il y a même Édouard Philippe qui a dit merde à ceux qui veulent avoir la peau, peut-être, de Muriel Pénicaud sur cette question. On revient à la réforme des retraites, parce que là, il y a beaucoup de questions. Vous avez hérité d'un texte que vous trouvez comment?
Le texte, que c'est... il remplit ses promesses. Il nous reste, à nous, parlementaires, de l'examiner article par article, alinéa par alinéa, pour essayer de renforcer tous les dispositifs qui concernent la solidarité, l'équité, la justice, la lisibilité des droits, le pilotage du futur système, tous ces sujets-là, nous voulons les aborder. Et nous sommes rentrés dans le débat depuis maintenant presque 15 heures déjà. Et je pense que nous avons un certain nombre d'heures devant nous, vu le nombre d'amendements. Et
d'abord, justement, comment est-ce que vous travaillez avec ces 21 179 amendements qui ont été déposés, dont la grande partie, pour ne pas dire la quasi-totalité, ont été déposés par la France Insoumise?
Alors, il y a évidemment 19 000 amendements déposé par la France Insoumise et 17 fois le même à chaque fois, qui consiste à supprimer chaque alinéa. On en est arrivé à des épisodes assez intéressants. La France Insoumise nous a proposé de supprimer un principe de solidarité dans la réforme des retraites, ou aussi un livre du Code de la Sécurité sociale. Donc, on voit bien qu'il y a une certaine absurdité sur certains amendements et que c'est vraiment de l'obstruction parlementaire. On arrive néanmoins, je trouve, sur chacun des sujets à finalement avoir un débat parlementaire, parce qu'au final, en défendant ces amendements, ils apportent leurs arguments et nous contre-argumentons en défaisant pas à pas tous ces arguments et ces fausses nouvelles, souvent, que les oppositions...
Oui, et concrètement, ça se passe comment? Vous en évacuez, par exemple, là, c'est en examen depuis 15 heures, vous l'avez dit, vous en avez déjà supprimé combien, évacué combien de ces amendements?
On a dû en faire entre 200 et 300.
D'accord, donc il vous reste encore pas mal de temps. Vous faites que ça, finalement?
Vous savez, les Français, ils veulent qu'on ait ce débat parlementaire. Ils le veulent, ils l'attendent, ils veulent des réponses, ils ont des questions précises sur la valeur du point, sur les dispositifs de solidarité, comment ça va marcher, qu'est-ce qui va donner le droit au minimum de pension. Tous ces sujets-là, nous avons des réponses. Et nous, nous en parlons au fur et à mesure du débat. Il est vrai que nous sommes privés d'un débat plus technique, de travail sur chaque
article. Pour l'instant, vous ne faites que gérer ça.
Pour le moment, nous avons... En fait, c'est comme une grande discussion générale autour du projet de loi où chacun fait valoir ses arguments et où nous défendons nos positions progressivement sans forcément rentrer dans la rédaction précise de la loi.
Alors, à partir de quand vous allez vraiment travailler sur le fond du texte? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez évacué tous ces amendements, non?
Nous y sommes et nous avons d'ailleurs les autres oppositions qui ont présenté environ 1000 à 1500 amendements, notre majorité aussi, hein, nous en faisons partie, qui pour... améliorer le texte. Et donc, au fur et à mesure du débat,
largement.
Par exemple, là, nous avons adopté, c'était un amendement qui était proposé par plusieurs oppositions et par nous, sur l'intégration du sujet des aidants, c'est-à-dire que maintenant, quand vous accompagnez une personne handicapée ou dépendante, vous avez des points de solidarité dans le cadre du congé pour aidants. Donc, on avance au fur et à mesure. Certes, nous aimerions aller plus vite, mais nous avançons et surtout, nous ne souhaitons pas priver les Français de ce débat. Nous sommes très regardés pour cela.
Et ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire
parce
que nous aurons
y a pas de débat
argument
avec les Français.
Par argument. Oui. Non, mais les Français ont fait valoir auprès de chacun de leurs députés un certain nombre d'arguments. Nous avons travaillé le texte et donc nous faisons valoir les cas particuliers de notre circonscription ou de certaines organisations qui sont venues présenter leurs inquiétudes auprès de leurs députés. Et nous avons le débat argument contre argument. Cela se fait également en présence du ministre qui répond régulièrement aux inquiétudes soulevées par les parlementaires.
Quand est-ce que vous allez rentrer je dirais, là vous procédez par étapes, c'est logique. Quels sont les points clés à vos yeux, Célia de Lavergne? Est-ce que c'est la question du financement, après surtout les critiques très fortes du Conseil d'État? Comment est-ce que vous comptez aborder cette question, sachant que parallèlement, évidemment, se déroule la conférence de financement? J'en profite pour dire que je recevrai Laurent Berger lundi matin, le leader de la CFDT. Comment est-ce que vous travaillez, par exemple, sur cette question?
Bien, d'abord, sur la question du financement. Il y a un malentendu parce qu'on parle souvent d'un pourcentage du produit intérieur brut, du PIB. La réalité, c'est que les 10 dernières années, on a consacré à peu près le même poids de ce produit intérieur brut aux retraites, 13,7%. Et pourtant, on a intégré 2 millions de retraités supplémentaires et on a augmenté de 20% les pensions brutes. Pourquoi ? Parce que le produit intérieur brut grandit. C'est pas un gâteau fixe, ça grandit. Donc un pourcentage grandit. Et aujourd'hui, dans l'étude d'impact, ce qu'on voit, c'est qu'en 2040, avec 13,3% de ce produit intérieur brut, on finance et le niveau des pensions et la solidarité, puisqu'on voit que dans ce projet de loi, vous avez un certain nombre de mécanismes qui visent à renforcer la solidarité avec le fameux minimum de pension à 1 000 euros, puis 85% du SMIC, avec la majoration, vous parliez de femmes tout à l'heure, la majoration de la pension pour les femmes dès le premier enfant, ce qui n'existe pas aujourd'hui, 5% par enfant et 2% supplémentaires lorsqu'on a une famille nombreuse. Toute la question de la réversion, lorsque un accident de la vie fait que vous êtes veuf ou veuve, vous serez assuré de 70% du revenu de pension des couples. Il y a tout un tas de dispositifs. Donc ça finance à la fois le niveau de pension et à la fois la solidarité. On sait faire.
Oui. Non mais ça, oui. Enfin, vous savez faire. Je veux dire, alors vous êtes même si vous-même vous êtes très diplômée et très brillante, vous savez mieux faire que le Conseil d'État, parce que le Conseil d'État, lui, il sait pas faire visiblement avec le texte qu'il a.
Alors, il y a deux choses.
C'est la question du financement. Je parle pas.
Il y a bien sûr. Il y a quelque chose d'ailleurs de très intéressant dans ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de créer un nouveau système, une sorte de sécurité sociale des retraites. Ouais. Et ce système, il sera financé à terme. Grâce à un pilotage par les partenaires sociaux, grâce à un âge d'équilibre. Ce sur quoi travaille la conférence de financement et qui interroge le Conseil d'État, c'est le financement à court terme, c'est-à-dire comment faire en sorte, une fois qu'on lance ce nouveau système, qu'il soit à l'équilibre financier et que
on crée les conditions. Est-ce que pour vous, il y aura forcément une condition d'âge? Parce qu'Edouard Philippe a dit, c'est pas forcément... On peut peut-être trouver d'autres choses. J'ai reçu président du MEDEF, président de la CPME, numéro 2 du MEDEF, ils disent pas d'hausse de cotisation, pas d'utilisation de la CRDS. Comment fait-on?
Alors là, objectivement, les partenaires sociaux nous demandent un temps de travail pour faire des propositions. Nous le leur donnons. La balle est dans leur camp. D'ici début avril, nous attendons à ce qu'ils nous présentent les solutions pour atteindre l'équilibre en 2027, qui peuvent passer par plusieurs solutions, y compris par les fonds de réserve, et nous l'intégrerons dans le projet de loi.
Donc la question du financement n'est pas abordée en commission.
La question du financement l'est à long terme, sur le fonctionnement du système à long terme, avec, comme vous le savez, un âge d'équilibre qui doit permettre aujourd'hui de piloter son départ à la retraite. L'âge légal reste à 62 ans et jusqu'à l'âge d'équilibre, vous pouvez partir avec une décote sur votre pension, au-delà de l'âge d'équilibre, avec une surcote. Ce qui est intéressant là-dedans, et peut-être vous le savez, mais aujourd'hui, 120 000 personnes partent à 67 ans parce que c'est l'âge de décote actuel. Et parmi ces 120 000, plus de 50% font partie des personnes, les 20% les plus modestes. Ça veut dire qu'on touche aussi avec cette mesure les personnes les plus fragiles et on permet d'augmenter, c'est le cas, de 30% la pension des plus modestes.
Sur la question de la décote, est-ce que vous avez une position ou pas, Céline de Laverne ? Est-ce que la décote, si au-delà de ces tâches d'équilibre, on verra où est-ce qu'il sera fixé ou pas, est-ce que pour vous, elle doit être forte, 5%, 10%, est-ce qu'elle doit être... elle doit être définitive ou est-ce qu'elle doit être temporaire comme dans la carte de la réforme dans la carte des retraites complémentaires, la GIRC-ACO? Comment est-ce que vous sentez les choses?
Le projet de loi définit un principe d'âge d'équilibre et il définit le fait que ce coefficient sera piloté par les partenaires sociaux. Je dis ça parce qu'il y a déjà l'expérience d'Agirc-Arrco, vous le connaissez. C'est d'ailleurs pour ça que vous me demandez si c'est temporaire, quel sera le montant.
Oui, c'est pour ça, bien sûr.
Que le jour où fonctionnera cet âge d'équilibre, il faudra, et c'est ce qui est prévu dans la loi, avoir les projections à 40 ans de la situation actuelle de la société, du nombre de retraités, du niveau des pensions, de la valeur du point. Et c'est à partir de là qu'on sera capable de dire, avec le système d'incitation à travailler au-delà de l'âge d'équilibre et à minima d'y aller et d'aller au-delà, qu'on sera capable de dire s'il faut un coefficient fort ou un coefficient faible.
Voilà, je vous posais la question, mais là vous reposez ma question.
Il faut les données. Oui, bien sûr. Mais justement,
et vous
il
avez
faut
pas les données
un
financières.
Certain nombre de données. Pas financière, un certain nombre de projections sur l'état.
Mais sur le côté fixe ou temporaire, est-ce que vous avez déjà une position à La République En Marche?
Je ne crois pas que ce soit aussi simple de dire ça sera tout fixe ou tout temporaire. Il y a peut-être des moments où ça sera temporaire et des moments où on le projettera dans une longue durée. Ouais. Et je crois que ça, c'est vraiment le pilotage futur qui doit aussi... Vous savez, le projet de loi...
D'accord, comme ce n'est pas le cas aujourd'hui, on dit que c'est définitif. C'est pour ça que si vous nous dites qu'il y a une modulation, c'est une information.
Le projet de loi fixe des grands principes. Et ensuite, il y aura une liberté, et c'est normal pour faire fonctionner un système de cette ampleur, dans le pilotage aux partenaires sociaux. Et cette question du coefficient, elle sera posée aux partenaires sociaux dans le cadre large de la loi.
Encore pas du pain sur la planche.
C'est passionnant.
Merci beaucoup, Céline de Laverne. On vous aura l'occasion de revenir nous voir peut-être à la fin, justement, de cet examen en commission de la réforme des retraites. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, député La République En Marche de la Drôme. Dans un instant, on part aux États-Unis où là aussi, c'est quand même très compliqué ce qui se passe. Situation politique très tendue du côté républicain, du côté démocrate. On voit ça avec François Bujon-Létang, ancien ambassadeur à Washington, ambassadeur de France.
BFM Business, le club de l'heure H.
Club de l'heure H avec François Bujon-Létang, ancien ambassadeur de France à Washington, ambassadeur de France, bonjour.
Bonjour Edwige.
Merci d'être avec nous, on a besoin de vos lumières pour nous aider à décrypter un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé du moins hier, où il s'est passé deux événements, et bien sûr le discours de l'état de l'Union, de Donald Trump qui a vanté les mérites de sa politique économique, et puis ses gestes incroyables où il ne serre pas la main à Nancy Pelosi, qui du coup à la fin déchire le discours de Donald Trump. Et puis, évidemment, l'élection démocrate, enfin la primaire démocrate dans l'Iowa, avec tous ces bugs techniques invraisemblables. On commence... Quel est le pire des choses? Je ne sais pas, vous préférez commencer par quoi? C'est tellement sidérant ce qui s'est passé que même les médias américains sont encore stupéfaits.
Oui. Écoutez, on peut commencer, si vous voulez, par le discours sur l'état de l'Union. Je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup de lumière à vous apporter là-dessus, mais ce que je peux dire, c'est que l'incident d'hier soir, c'est un incident majeur dans la civilité démocratique américaine, c'est sans précédent. Le président refuse de serrer la main du speaker de la Chambre à qui il tend son discours et tourne le dos, et le speaker de la Chambre déchire le discours du président à peine a-t-il fini de parler. On ne peut pas exprimer de façon plus spectaculaire l'acrimonie, le manque de dialogue, l'hostilité, le clivage irréparable qui s'est installé dans la politique américaine. C'est vraiment le symbole de cette nouvelle politique américaine qu'on a vu se dessiner au fil, nouvelle vie politique américaine, qu'on a vu se dessiner au fil des dernières années, dans lesquelles vous avez une radicalisation de plus en plus grande, un manque de dialogue entre les deux parties, si vous voulez, et une espèce d'acrimonie très 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 forte. Évidemment, M. Trump en veut à Mme Pelosi, puisque c'est elle qui a pris la décision de déclencher la procédure d'impeachment, bien sûr, et elle considère qu'il s'est comporté d'une façon parfaitement grossière, ce qui est tout à fait exact, et donc elle en tire les conséquences en faisant ce qu'elle a fait, et en disant après d'ailleurs que c'était la meilleure des options possibles, et la plus courtoise des options possibles. J'imagine, je ne vais pas la faire parler
à sa place, ça aurait été
les autres eussent été probablement de lui jeter son discours à la tête ou de lui donner une baffe, effectivement.
Quand vous dites que c'est du jamais vu aux États-Unis, parce que l'état de l'Union, on va quand même expliquer à nos auditeurs et téléspectateurs, c'est quand même le discours... Oui. prononcé chaque année.
Oui.
Important, c'est un peu comme chez nous les vœux du président, quoi.
Oui, oui, c'est un rite annuel. C'est comme le discours de la reine devant le Parlement britannique. C'est un rite annuel dans lequel le président des États-Unis, devant les deux chambres réunies du Congrès, vient faire une espèce de bilan d'étape pour dire voilà où on en est, voilà où en est l'économie, voilà mes grands projets politiques, etc. Alors il l'a fait. Il a parlé 1h18 quand même. On en oublie le discours. Du
oui.
coup.
Bon, de toute manière, il n'a pas dit grand-chose. Il a juste...
glorifié ses résultats économiques, qui sont effectivement assez brillants, il faut bien le reconnaître. Et puis, il a énoncé un certain nombre de projets qu'il a, tout en ne parlant pas d'un grand nombre de choses très actuelles. Il n'y a pas un mot, par exemple, sur la procédure d'impeachment, qui va se clôturer, comme vous le savez, tout à l'heure, avec un débat assez bref, et un vote au Sénat qui va, bien entendu, acquitter M. Trump.
Oui, vous nous l'aviez dit, premier à nous le dire, j'en souviens, François Béjon l'étant, il y a longtemps, avant même que la procédure ne soit lancée, vous avez dit, pour ceux qui pensent que ça pourrait changer les choses, il n'y a aucune chance. Donc vous avez raison. Mais est-ce que quand même, là, Nancy Pelosi, et après on ira sur le fond du côté démocrate, Nancy Pelosi, c'est pas elle qui a remporté la bataille de l'image, parce qu'on voit partout en boucle cette image.
Oui, bien sûr. Enfin, elle n'est pas très favorable à M. Trump, effectivement, cette image, mais elle est surtout, moi, je ne la personnalise même pas, je ne donne pas une plus mauvaise note à l'un qu'à l'autre. Je connais très bien Mme Pelosi depuis de longues années. C'est une femme extrêmement estimable, c'est une femme de caractère, et elle est objectivement un très bon speaker de la Chambre des représentants. C'est le personnage numéro 3 de l'État dans la hiérarchie américaine. Le numéro 2 étant évidemment le vice-président qui est également président du Sénat. Ouais. Mais non, mais monsieur
démocrate,
Trump... Démocrate, bien sûr. Démocrate de Californie, de San Francisco.
Pourquoi elle ne se présente pas aux primaires?
Je pense qu'elle n'en a pas l'ambition. Elle a pourtant à peu près le même âge que les autres candidats, qui sont tous, part M. Buttigieg, dont nous allons parler dans un instant, des septuagénaires avancés. Elle en est une aussi. Elle pourrait, elle a l'expérience, mais elle n'a pas d'ambition présidentielle.
Non, alors qu'elle est quand même numéro 3 d'État, et on voit qu'elle n'a pas peur d'affronter Donald
Trump. Non, elle a beaucoup de caractère. Ouais. Vraiment.
Un peu comme Elizabeth Warren, mais enfin, qui, pour le coup, elle se présente. Alors, cette primaire dans l'Iowa, on en a déjà beaucoup parlé là, depuis quelques jours. C'est en général, on dit celui qui l'emporte ou celle qui l'emporte, enfin, c'est plutôt celui qui l'emporte, devient président des États-Unis.
Oui,
ou candidat.
C'est un peu
candidat.
Forcé, oui,
candidat.
Oui, bon. Oui.
Mais alors là, surprise du chef, avec ce jeune candidat démocrate, avec un nom imprononçable.
Un nom maltais.
Oui, maltais.
Maltais. Ça se prononce, d'après lui, je le cite, Buttigieg.
Oui, absolument.
C'est comme ça qu'il le prononce lui-même.
Et c'est pour ça qu'il fait que dans sa petite ville de l'Indiana, South Bend, dont il est maire, oui, il se fait appeler Mayor Pete.
C'est ça, Mayor Pete. C'est parce que personne n'arrive à prononcer son nom sans faire d'erreur. Alors, il a plusieurs caractéristiques. Il vient du Middle West, donc dans l'Iowa, ce n'est pas neutre, évidemment. L'Iowa, rappelons-le d'abord peut-être, est un tout petit État, 4 millions d'habitants. C'est un État qui n'envoie que 41 délégués à la Convention démocrate. Donc, il faut relativiser ça. Mais c'est la première des primaires. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle donne le ton, généralement. Et effectivement, elle donne un certain ton. Mais il faut tout de même la relativiser. Elle n'est d'ailleurs la première que depuis peu. C'était le New Hampshire, traditionnellement, qui venait en tête pour des raisons de calendrier compliquées. Le New Hampshire, c'est la semaine prochaine, finalement. Et nous verrons ce qui s'y passe. Mais il semble, d'après les résultats partiels, puisqu'ils sont encore partiels, qui sont à notre disposition, que c'est lui qui arrive en tête.
Oui, 26,8% d'après ce qu'on a, et 25,2% pour Bernie Sanders.
C'est ça. Elizabeth Warren en troisième position, et la grosse, grosse surprise, c'est Joe Biden en quatrième position.
15,4%.
Très loin.
Incroyable. Alors, il faut en conclure quoi? Enfin, en conclure, c'est peut-être un peu prématuré, mais il faut...
On ne peut pas en conclure grand-chose, mais d'autant plus qu'il y a eu ces difficultés informatiques qui font que la formule du caucus de l'Iowa, qui est déjà très compliquée à faire fonctionner, n'a pas fonctionné du tout cette fois-ci. Mais il faut en conclure plusieurs choses. La première, c'est que dans un peloton de candidats démocrates qui sont tous des septuagénaires, dont la plupart sont des septuagénaires avancés, 78 ans, 79 comme Bernie Sanders, c'est le jeune, le trentagénaire, qui arrive en tête. Bon, ça, c'est quand même très important, parce que ça prouve que la jeunesse reste un facteur dans une campagne présidentielle. Vous allez avoir un président de 71 ans qui se présente pour avoir un deuxième mandat, et des candidats démocrates qui sont tous très âgés et très expérimentés, pour la plupart. Donc ça, c'est un premier point intéressant. Mais il ne faut pas considérer que c'est joué du tout. Bernie Sanders fait quand même un très gros score, comme il est assez attendu. C'est lui qui a le plus gros trésor électoral, comme vous savez, en termes financiers. C'est lui qui a accumulé pour l'instant le meilleur financement parmi les candidats démocrates, et il incarne cette espèce de dérive vers la gauche du parti démocrate, qui n'est pas le cas de Buttigieg, qui est lui plutôt un middle of the road, si vous voulez, un modéré, disons. Et ça c'est un signe important. Ça veut dire que le parti n'est peut-être pas parti autant vers la gauche que le pensaient Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, ou un certain nombre de leurs... Les modérés n'ont pas dit leur dernier mot. C'est mon premier renseignement. Le second, c'est que Joe Biden, qui passait pour être évidemment l'ancien vice-président d'Obama...
Oui. Avec les stars hollywoodiennes qui le soutiennent.
6 mandats de sénateur, tout ce que vous voudrez. Il est très très loin. Oui. Il est très loin. Comme s'il incarnait le passé et que les électeurs, au fond, ne s'attardaient pas sur quelqu'un qui leur paraît peut-être un peu archaïque. Ça, c'est un enseignement très important. Ça va beaucoup le gêner pour la suite, ce mauvais démarrage, parce qu'il va avoir du mal à collecter des fonds dans la foulée de cette défaite.
Mais est-ce que justement, ce Pete Buttigieg, est-ce que lui, il va pouvoir récolter des fonds?
On va voir.
Parce qu'il est inconnu, quand même.
Oui, il est très peu connu en dehors de son Middle West natal. Il vient de l'Indiana. Il a été maire d'une petite ville qui s'appelle South Bend, où il a fait deux mandats de maire.
Voilà.
Il est homosexuel, marié. Ce sont des choses qui ne passent. Oui, ce sont des choses chrétiens avérées, et il met beaucoup en avant le fait que dans son passé, qui est encore relativement court, il a servi dans la Navy, il a servi dans les forces spéciales, et il a passé 8 mois en Afghanistan.
En tous les cas, ça a marché. Juste un mot quand même, rappelez-nous, le caucus, comment ça fonctionne? Parce qu'on va en parler souvent, comme vous dites, maintenant, toute l'actualité va être égrenée par les primaires démocrates. Comment ça va se passer?
Dans les primaires, normalement, on vote.
Oui.
On met un bulletin dans l'urne, un bulletin électronique, et c'est un vote normal. L'Iowa est assez particulier parce que c'est un de ces États qui utilise la formule dite du caucus, dans lequel on ne vote pas de façon uniforme dans tout l'État, mais où on se rassemble dans les préaux d'école, dans les bibliothèques publiques, dans des bâtiments publics. On se rassemble, on forme des groupes autour des différents candidats, et c'est le plus grand groupe qui finalement l'emporte, si j'ose dire, et qui transmet à un comptoir central.
Et voilà, normalement, on transmettait par un coup de téléphone. Là, il a voulu faire ça sur le plan électronique.
Ils ont voulu faire ça de façon informatique et il y a eu un bug informatique qui a fait dérailler toute la machine.
Ouais. Bon. La prochaine étape, à votre avis, importante quand
Alors,
même.
La prochaine primaire, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est la primaire du New Hampshire.
Importante.
Traditionnellement importante. Elle était généralement la première jusqu'à ses tout dernières campagnes. Elle sera importante, mais c'est encore une fois, comme l'Iowa, un État peu peuplé, assez rural et à grande majorité blanche. Mmh. Donc, c'est pas très significatif. Après ça, vous avez la Caroline du Nord, qui est beaucoup plus intéressante, parce que ça, c'est un État dans lequel il y a une communauté noire qui est tout à fait importante et qui vient en troisième. Et puis ensuite, on se dirige vers ce qu'on appelle le fameux Grand Mardi, le Tuesday, dans lequel il y a 15 États qui ont simultanément une élection primaire. Et dans les 15, vous avez notamment le Texas, qui est un État qui pèse extrêmement lourd sur la carte électorale.
Oui, donc ça sera...
Alors là, nous verrons l'entrée en scène, il faut le dire, de Michael Bloomberg, qui a fait volontairement l'impasse sur l'Iowa et sur les deux suivantes, et qui se concentre sur ce Big Tuesday.
Là où il y a beaucoup de délégués. Merci beaucoup, François Bujon, l'étant d'avoir été avec nous, donc ambassadeur de France, ancien ambassadeur à Washington. Tu es un des meilleurs spécialistes, justement, de la politique américaine. Merci beaucoup.
Merci.
Dans un instant, c'est Marlène Schiappa qui sera avec nous. Elle est secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. On reviendra sur le pouvoir des femmes dans l'économie avec une loi en préparation qui fait déjà grincer beaucoup de dents. A tout de suite.
BFM Business, midi, leur H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Elle est de toutes les polémiques lorsqu'il s'agit de femmes. Elle n'hésite pas à prendre parfois le contre-pied de certains de ses collègues du gouvernement. Marlène Schiappa, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. En ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques. Il y a évidemment, vous êtes prononcée sur les nominations de Polanski au
César. Il y a des combats plus que des polémiques, mais aussi.
Voilà, mais qui se traduisent souvent avec des polémiques, parce qu'on dit que certains, justement, disent elle veut la guerre entre les hommes et les femmes. On va revenir là-dessus. Il y a l'affaire Mila, où vous êtes aussi beaucoup exprimé. Vous étiez à Grenoble il y a encore très très peu de temps. Et puis, surtout, vous portez un projet de loi qui nous intéresse, ici, où on parle beaucoup d'économie, bien sûr, sur le pouvoir des femmes au sein de l'économie. On vous a remis ce matin un rapport avec Chiara Corazza, directrice générale du Women's Forum, sur comment faire pour faire bouger. Et puis aussi, vous avez lancé une grande consultation. Vous allez nous dire un petit peu qu'est-ce qui en est ressorti. Surtout, il y a déjà peut-être la volonté de créer des quotas, comme ça existe dans les conseils d'administration, dans le cadre des COMEX. Mais d'abord, une question, ça fait le buzz, ça a dépassé largement le cadre de l'économie. Engie, visiblement, demain, il y a un conseil d'administration extraordinaire, ça devait être le 26 février prochain, pour savoir si oui ou non, le conseil va remplacer Isabelle Cochet, la directrice générale. Quel est votre commentaire là-dessus? C'est vrai que c'est la seule femme du CAC 40.
Oui, bien sûr.
Certains disent que c'est un combat d'arrière-garde capitaliste française. Qu'est-ce que vous dites?
J'aimerais qu'il y ait effectivement d'abord plus de femmes à la tête du CAC 40. Avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, on est en train de tout faire avec cette loi pour que ça advienne. Maintenant, moi, je n'ai pas d'opinion sur le bilan d'Isabelle Cochet en tant que secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a indiqué que la DG de Engie serait évaluée sur son bilan, sur ses résultats, sur
ses
actions.
Vous aviez un coup de fil, quand même, parce que vous aviez tenu des propos qui étaient un peu plus en faveur d'Isabelle Cochet. Vous avez eu un coup de fil de Bruno Le Maire qui vous a dit attention, c'est uniquement sur...
Alors, pas du tout. Et pour tout vous dire, j'étais ce matin avec Bruno Le Maire, parce qu'on a travaillé pendant quasiment 2 heures sur la question de l'égalité femmes-hommes dans l'économie et à aucun moment nous n'avons ni lui ni moi abordé la question d'Isabelle Cochet parce que c'est une question ad hominem et je pense que le but de l'égalité femmes-hommes dans l'économie c'est aussi de ne pas essentialiser les femmes, de ne pas les évaluer pour leur genre parce qu'elles sont des femmes ni en positif ni en négatif mais de les évaluer sur leurs compétences et leurs performances. Moi je ne suis pas qualifiée pour émettre un regard sur les performances économiques et sociétales de la DG d'Engie. Je sais que la question de la transition écologique et notamment fondamentale pour l'État qui est en mesure de se prononcer sur ce qui se passe chez Engie. Donc je crois savoir que tout cela sera évalué très prochainement.
Oui, la question, alors ça c'était Yannick Jadot l'a soutenu dans une tribune hier, ainsi qu'Anne Hidalgo qui porte des discours écologiques très forts, pas seulement Valérie Pécresse aussi, puis il y a eu des figures emblématiques de la tech comme Frédéric Mazzella. Yannick Jadot dit c'est la vieille garde industrielle de ce pays, il faut lutter contre. C'est vrai que le paysage capitalistique industriel français, il y a essentiellement des femmes, des hommes, aucune femme, lapsus révélateur.
C'est vrai, d'ailleurs dans tout le monde économique, et je salue le fait que dans cette émission on est une femme au micro, c'est assez rare sur les questions d'économie pour être souligné et pour être salué. Et l'enjeu des pouvoirs publics, c'est quoi notre responsabilité? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de permettre à davantage de femmes d'accéder à des postes de pouvoir. On voit quand on demande que ça se fasse naturellement, ça ne se fait pas en réalité. Le World Economic Forum a calculé qu'il faudrait attendre l'an 2234 pour atteindre l'égalité femmes-hommes dans le monde économique, dans le monde entier. Et donc, pour aller au-delà de ça, il faut prendre des mesures volontaristes. Ce matin, nous étions avec Chiara Corazza, la directrice générale du Women's Forum, pour travailler avec plusieurs ministres, Frédéric Vidal, Cédric O, Agnès Pannier-Runacher et Bruno Le Maire à Bercy, pour travailler sur la manière dont la nouvelle économie, l'économie en période de transition digitale, peut attirer davantage de femmes dans ces filières qui sont les filières de métiers et d'économie d'avenir sur la tech, le digital, le numérique, etc. Pour moi, c'est ça l'enjeu fondamental et je crois que ça doit être un enjeu qui soit décorrélé des questions individuelles et encore une fois que les femmes soient évaluées pour ce qu'elles font comme travail, indifféremment du fait d'être une femme ou non.
Oui, bien sûr. La seule chose, il y a quand même une portée symbolique très forte.
Bien sûr, je le reconnais.
Quel regard, c'est pas votre univers, on le sait bien, Marlène Schiappa, mais quel regard vous portez justement sur l'économie, le monde des affaires, les entreprises en France? Quel regard vous portez?
Mais vous savez, moi, j'observe qu'il y a, à l'heure actuelle, des pans entiers de l'économie qui risquent de passer à côté de la transition digitale parce que les femmes ne sont pas assez formées au digital. Je pense à des secteurs comme la santé, le sanitaire et social, services à la personne, les entreprises innovantes sur les secteurs mode et beauté, par exemple. Si les femmes ne sont pas formées au digital, tous ces pans de l'économie qui sont statistiquement très féminisés risquent de passer à côté. Et donc, pour moi, il y a un enjeu d'actualité majeur, c'est celui-ci, c'est de former davantage les femmes au digital et de les soutenir pour la prise de poste dans les professions dans lesquelles on a davantage de pouvoir et quitte à en passer par des quotas ou à renforcer les quotas qui d'ailleurs existent déjà en France depuis la loi Copé-Zimmermann.
Mais nous avons sur les conseils d'administration uniquement.
Absolument, et donc nous avons une réflexion pour voir s'il est opportun ou pas de l'étendre au COMEX ou au CODIR, à d'autres entités qui pourraient comme ça se féminiser bien davantage, parce que c'est très masculin. L'économie française, elle est très très masculine.
Oui. Et la nouvelle économie aussi. J'avais reçu ce matin Cédric O, justement, en charge du numérique. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a Jean-David Chamberet, le patron du fonds Isaïe, disait que je crois qu'il y a que 5% des fonds qui sont levés par les femmes. Donc la nouvelle économie, elle est presque encore plus masculine que la vieille économie, la vieille garde industrielle.
Exactement, mais tout à fait. En fait, et d'ailleurs, ça a été documenté par des économistes, par des sociologues y compris, en disant qu'il y a une forme de broculture, notamment dans le monde des startups. Il y a un livre qui est sorti là-dessus, une culture du clan masculin, du on est entre hommes, et les femmes en sont exclues de fait. Et ça, c'est quelque chose contre quoi nous luttons avec Cédric O. Nous avons commencé avec Mounir Majoubi à travailler là-dessus pour que notamment, par exemple, la French Tech soit davantage ouverte sur les femmes, pour les femmes, et pour soutenir le financement des entreprises créées par des femmes. Donc,
il faudra des mesures à fonds spécifiques justement pour un financement des entreprises par les femmes. On commence à rentrer dans la discrimination.
Alors justement, on corrige, on veut corriger les discriminations. Là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a très peu de fonds qui sont créés par des femmes, qui sont soutenus. Il y a un collectif Sista qui a été créé justement bien sûr que vous avez reçu absolument, qui a été créé et qui fait un travail formidable pour rendre visible la manière dont les fonds vont soutenir justement davantage les entreprises créées par des hommes. Donc avec Bruno Le Maire, nous pensons que nous pouvons changer ça et donner une impulsion forte par la loi. Et donc nous sommes en train d'y travailler pour une loi pour l'égalité femmes-hommes dans l'économie.
Alors justement, ce matin, qu'est-ce qui en est ressorti? D'abord, le rapport de Chiara Corazza.
Beaucoup de choses. Oui. D'abord, le fait qu'effectivement, plusieurs études l'ont documenté, GenderScan et d'autres, l'orientation des jeunes filles vers les filières du numérique, elle baisse année après année, et ce, dans tous les pays d'Europe.
D'accord, donc ça, c'était sur le numérique.
Exactement. Oui. Beaucoup sur le numérique et sur la nouvelle économie. Ça, c'est la première chose. Mais ensuite, au-delà du rapport de Chiara Corazza, qui est un très bon rapport sur ce sujet précis, nous avons lancé avec Bruno Le Maire une consultation et nous avons eu des dizaines de milliers de participantes et de participants qui ont donné leurs idées pour faire progresser la place des femmes dans l'économie. Donc ça va de la question de l'allongement du congé paternité, par exemple, à l'amélioration de la répartition des congés parentaux en passant par les quotas, ou effectivement, vous l'avez dit, le fait de soutenir davantage les entreprises qui sont créées ou gérées par des femmes.
Je garde ce point-là qui est sans doute le plus un peu cristallisant, surtout pour certains qui nous expliquent que ça sera compliqué à faire dans un instant. Juste, il y a une tribune justement qui est portée par Cécile Lazorte, qui est des figures emblématiques de la French Tech, qui dit nous, on peut prendre le congé parental du deuxième parent. Oui. Donc là, on voit que ça remonte beaucoup parmi la manière de faciliter la présence d'une femme.
Oui, parce que.
D'un père.
Oui, bien sûr, parce que je crois que tous ces sujets, ils sont liés en fait, c'est-à-dire on a trop souvent tendance à traiter les sujets de manière déconnectée. Mais pourquoi dans les sphères de pouvoir il y a aussi peu de femmes? Parce qu'il y a en France et dans d'autres pays une répartition entre femmes et hommes. Aux femmes, la sphère de l'éducation des enfants, de tenir le foyer, etc. Encore maintenant, c'est très ancré. Le congé parental, par exemple, il est pris à près de 80% par les femmes et pas par les hommes. Et donc c'est cette répartition aux hommes le pouvoir et l'extérieur, aux femmes le monde intérieur. Si on arrive à avoir une répartition plus égalitaire entre les femmes et les hommes, et qu'on permet, qu'on propose aux pères, il ne s'agit pas d'obliger les pères à rester à la maison, il s'agit d'ouvrir le champ des possibles, et pour les hommes qui souhaitent s'occuper davantage de leurs enfants, de le faire. Il y a un ministre récemment d'un pays asiatique qui vient de prendre un congé paternité un peu long, dans un pays où seulement 6% des pères le prennent. Je crois que ça a aussi valeur d'exemple, de rôle modèle. Tous les hommes à la direction d'entreprise, dans l'économie, qui s'engagent aussi dans leur vie personnelle, ce sont des hommes qui donnent un exemple positif, je crois.
Alors, on va donner quelques chiffres, ou peut-être qu'on va aller voir pour ceux qui nous regardent à la télévision. 20% des femmes au sein des comités de direction des entreprises cotées du CAC 40, 19% des entreprises du SBF selon 20. Ça, c'est un baromètre qui avait été fait pour somme toute par Adrien Kinsrugel. Mais il manque 280 femmes déjà aujourd'hui. Ouais, donc des quotas, qu'est-ce que vous proposez?
Alors, on est en train d'y réfléchir, parce que ce que je voudrais dire, et particulièrement pour tous les gens qui regardent BFM Business, c'est qu'on ne fera rien contre les entreprises. L'idée, c'est que ces mesures, elles soient mises en application. Donc si on a en face des gens qui sont opposés à nous, on n'y arrivera pas. Donc avec Bruno Le Maire, on travaille avec beaucoup de volontarisme, beaucoup de détermination pour notre objectif qui est l'égalité femmes-hommes dans l'économie, mais on travaille aussi avec le MEDEF, avec la FEP, pour faire en sorte que chacun soit entendu et qu'on prenne en compte aussi les contraintes du monde réel. On ne veut pas faire du dogme et de l'idéologie déconnectée des contraintes de la réalité. Donc on est sur une ligne de crête, mais on avancera. Les quotas, ils ont prouvé leur efficacité en France. Depuis la loi Copé-Zimmermann, on est passé...
Tout le monde était contre, du reste.
Bien sûr, et ils ont eu beaucoup de courage, à la fois Marie-Josée Zimmermann et Jean-François Copé, beaucoup de courage que de porter cette loi à l'époque, qui maintenant est unanimement saluée en France et dans le monde, qui fait la fierté de la France, parce que nous sommes un pays qui est en tête du classement européen de la féminisation des conseils d'administration des entreprises. Donc ça, il faut le dire, c'est une fierté française sur ce sujet, sur la place des femmes.
Mais en revanche, je rappelle, puisque vous l'avez déjà cité, sur le classement du World Economic Forum, du Forum de Davos, la France est première égalité homme-femme pour tout ce qui est fonction ministérielle. Oui. Pour les entreprises, dans le monde de l'économie, on est 59e, je crois. On est complètement au fond du classement.
Exactement.
Derrière nous, il y a Malte ou...
C'est tout à fait ça. Et justement, nous, on a envie d'avancer là-dessus. Et donc, avec Bruno Le Maire, ce que nous constatons, c'est que dans les CODIR et dans les COMEX, on peut encore évoluer sur la place des femmes. Et donc, nous sommes en train d'y travailler. D'ailleurs, ça a beaucoup remonté de la consultation faite avec MEG.org. Beaucoup de femmes et d'hommes nous disent on voudrait qu'il y ait des gouvernances plus mixte avec davantage de femmes qui soient promues. Donc pour ça, il faut que le vivier existe, il faut qu'on puisse trouver des femmes pour les nommer. Mais je crois que la seule femme qu'on ne trouve pas, c'est la femme qu'on ne cherche pas. Et je pense que si collectivement, avec les pouvoirs publics qui prennent leurs responsabilités, on se donne les moyens de trouver des femmes, on en trouvera.
Alors, ligne de crête, on va donner quand même un des objectifs, qui est de dire qu'il faudrait qu'il y ait 40% dans les COMEX, comité exécutif, comme dans les comités de direction, d'ici 2024. C'est ça à peu près le bout de la ligne de crête, c'est ça, le sommet?
Ça, oui. C'est l'objectif, c'est la proposition du rapport. Le gouvernement n'a pas encore arbitré. Donc il y a encore des discussions. Moi, je crois que le fait de donner un petit peu de temps, c'est bien. On a en fait à avoir deux contraintes. On a le World Economic Forum qui nous dit on y arrivera en 2234 si on ne fait rien. premier constat. Deuxième constat, on a des gens qui nous disent si vous nous obligez par la loi dans 6 mois, on n'y arrivera pas, on ne le fera pas. Et tout le monde se braquera. Donc nous, on doit réussir à trouver quelque chose qui soit concret. L'idée, c'est pas d'être dans l'incantation. Si je veux être dans l'incantation, je vous dis, on est 50% de femmes là dans 3 mois.
Oui.
Ça, c'est de l'incantation parce que c'est quelque chose qui ne sera pas suivi d'effet. Moi, je veux que ce soit suivi d'effet.
Mais est-ce que 40% en 2024, ça vous paraît jouable ?
Bon, encore une fois, il ne s'agit pas que moi je donne comme ça des chiffres à l'emporte-pièce. Il s'agit d'un travail sérieux. Avec Bruno Le Maire, nous avons un calendrier, nous avons une méthode. Nous procédons par des concertations à la fois de citoyens sur Make-Point.
Vous ne voulez pas effrayer, peut-être les dirigeants qui nous écoutent.
Non, bah, ce n'est pas une question d'effrayer parce que moi je trouve que les dirigeants sont plutôt volontaires. Vous savez, j'ai rencontré à la fois le MEDEF et la FEP et je sais que je suis un peu la gauchiste de ce gouvernement, mais le MEDEF et la FEP, on a eu des échanges très constructifs. Je les ai trouvés tous les deux très volontaires pour essayer de faire en sorte de promouvoir davantage de femmes. Il y a un nouveau code qui est paru récemment avec beaucoup d'actions assez positives.
Mais eux, c'est des quotas volontaires.
Absolument.
Donc déjà, le fait effectivement d'améliorer
leur position. Mais ça veut dire qu'on partage l'objectif.
Oui.
Et ça, c'est quand même assez récent parce que vous l'avez dit, il y a encore quelques années, l'objectif n'était pas partagé. Des gens nous disaient il n'y a pas de femmes, c'est que ça ne les intéresse pas, c'est comme ça, seule la compétence compte. D'accord, mais ça veut dire que si seule la compétence compte, ça veut dire que la compétence, elle sera à chaque fois du côté des hommes et jamais du côté des femmes pour être dans un CODIR, dans un COMET, à la tête d'une entreprise du CAC 40. Je ne le crois pas. Donc là, on a cet objectif partagé et maintenant, il faut ensemble travailler sur...
Il faut de l'accompagnement peut-être, justement.
Exactement, cet accompagnement. Accompagnement également, et ça c'est le rôle des pouvoirs publics me semble-t-il.
Ouais. Et puis on voit dans les entreprises publiques, on l'a vu à SNCF, on avait vu un moment à la Caisse des dépôts aussi, il y avait beaucoup de femmes qui étaient montées, mais ça veut dire qu'il faut
et puis l'État doit faire sa propre révolution aussi dans l'emploi public, et ça mon collègue Olivier Dussopt s'y emploie avec beaucoup de volontarisme, il mène un dialogue social de grande qualité pour faire en sorte de faire progresser les femmes, parce que l'État n'est pas encore exemplaire sur la parité femmes-hommes au poste.
Juste, est-ce que justement ça sera des quotas volontaires ou des quotas?
Alors, nous allons voir, il y aura des objectifs et des quotas. Moi, je tiens beaucoup au terme de quotas. Il me semble que c'est partagé par mon collègue Bruno Le Maire, parce que je crois qu'il faut à un moment se donner des objectifs fermes et ne pas laisser non plus les choses se faire, sinon elles ne se font pas. C'est ce que montre le Forum économique mondial. Donc, il y aura des quotas, oui.
Quel est à peu près le calendrier? Parce qu'on s'en souvient, ça a été un peu occulté par l'affaire de l'Iran, hein, mais c'est une des, ce qu'on appelle, je crois, le partenariat de Biarritz. Tout s'est décidé au G7 de Biarritz avec l'engagement d'Emmanuel Macron sur l'égalité homme-femme.
C'est tout à fait ça. Le président a lancé au G7 sous la présidence française un partenariat de Biarritz et tous les pays du G7 sous l'impulsion du président Emmanuel Macron se sont engagés à implémenter dans l'année qui vient une loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et la France a choisi de travailler sur l'égalité femmes-hommes dans l'économie avec Bruno Le Maire. Je porte avec lui ce projet de loi et nous sommes très enthousiastes parce que ça se base aussi sur le travail du Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes qui avait été créé par Justin Trudeau sous la présidence canadienne du G7, reconduite par Emmanuel Macron sous la présidence française, avec un objectif. Cet objectif, c'était faire un benchmark de toutes les meilleures lois du monde pour l'égalité femmes-hommes. Donc ce conseil a fait un travail remarquable en quelques mois et nous avons vu qu'il y avait dans le monde des lois pour l'égalité femmes-hommes dans l'économie efficaces qui nous ont inspirés pour mener ce travail, notamment des lois américaines sur l'entrepreneuriat des femmes.
Donc si je vous ai tendu la perche, Marlène Schiappa, c'est que justement il y a un G7 au mois de juin, donc cette loi égalité femmes-hommes au sein de l'entreprise, elle devra être quoi, peut-être pas débattue, mais en tout cas, il y aura déjà un texte de loi avant le G7,
alors,
j'imagine.
Très sincèrement, je n'ai pas encore le calendrier parlementaire sur cette loi, mais ce que je peux vous dire, c'est que le travail est lancé. Avec Bruno Le Maire, depuis plusieurs mois, nous y travaillons. Nous n'avons pas encore tout à fait finalisé ce travail de concertation, mais nous avons un calendrier, une méthode très précise, très sérieux, et nous y travaillons en souhaitant que ça puisse être débattu et voté dans l'année qui vient.
Oui, donc ça, c'est un point important. Est-ce que il y a une actualité quand même extrêmement forte. Il y a, pendant que nous parlons, il y a des développements sur l'abus sexuel dans le cadre du sport. Voulez-vous des quotas à la télévision pour le sport féminin, non? C'est ça, c'est un de vos objectifs aussi.
Absolument. En fait,
50%, je crois.
Je vais être très précise, ce n'est pas un objectif personnel. Le CSA a lancé depuis longtemps, ça avait été lancé à l'époque par Christine Kelly. Laura Flessel, quand elle était activiste, enfin avant en tout cas d'être au gouvernement, et puis c'est porté maintenant par Nathalie Sonac, par le président du CSA et bien sûr par
Olivier
Mestre, Roxana Maracine à nous, et par le secrétaire d'État dont j'ai la charge. Et donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut plus de sport féminin à la télévision. Et l'objectif de ce week-end, qui était un week-end de sport féminin toujours, c'était d'atteindre 20% de diffusion de sport féminin, parce qu'on augmente petit à petit. Mais j'ai dit à cette occasion, après tous les femmes, nous sommes 52% de la population, 50% de diffusion de sport féminin, c'est déjà un compromis. Pourquoi ne nous donnerions-nous pas l'objectif de 50% de sport féminin? Ouais. Mais c'est une bouteille à la mer que j'ai lancée, qui a été saisie. Et je voudrais saluer les progrès de beaucoup de chaînes de télévision qui ont diffusé des sports féminins et qui ont permis à chacun de les découvrir et de créer un engouement positif autour du sport féminin.
Un mot justement sur ce qui se passe sur l'abus sexuel. Est-ce que vous estimez qu'il faut que Didier Gayaga, et donc qui est le président de la Fédération des sports de glace, est-ce que vous estimez qu'il doit démissionner?
Alors moi, je soutiens tout à fait la demande de la ministre des Sports, oui, de démission. Je trouve qu'elle
est
très courageuse.
Il n'est pas obligé, en tout cas, ça ne dépend pas de la ministre.
Hein. Bien sûr, il n'est pas obligé, mais c'est pour ça que je trouve très courageux de la part de ma collègue de porter ce combat et d'aller au bout de ses responsabilités, de lui demander de démissionner. Et je voudrais adresser un message de soutien à Sarah Abitbol, qui a dénoncé avec beaucoup de courage les abus sexuels qu'elle a subis et les viols qu'elle a subis quand elle était une jeune patineuse, et toutes les autres femmes ou hommes qui, comme elle, prennent la parole pour les dénoncer. Je voudrais partager avec vous une adresse internet qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr, qui permet de chatter 24 heures sur 24 avec des policiers et des gendarmes formés sur les violences sexuelles. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent parler de ce qu'ils ont vécu ou de ce dont ils ont été témoins, ils peuvent se connecter sur cette adresse et parler avec des policiers et des gendarmes.
Oui, parce que c'est pas seulement dans le sport. En même temps, il y a une omerta qui était, enfin, oui, incroyable. Tout le monde est un peu complice, non?
Oui, complètement. Bon, chacun, en tout cas, des responsabilités. Chacun doit les prendre. Mais j'observe que les secteurs tombent petit à petit, ouais, si je peux le dire ainsi. Et à chaque fois, on dit c'est un secteur. Dans l'édition, on nous a dit c'est l'édition, c'est la culture qui a un problème. Là, on dit c'est le sport qui a un problème.
C'est le monde de l'entreprise,
Mais bien sûr, le monde de la politique, le monde des médias, le monde de la boulangerie, enfin, on peut citer n'importe quel secteur. La pédocriminalité, le harcèlement sexuel, les abus sexuels, il y en a dans tous les secteurs. Et c'est pour ça qu'il est important que les témoins réagissent pour mettre fin à cela et pour les dénoncer. Quand on a connaissance d'abus sexuels, il faut les dénoncer pour que ça s'arrête, pour protéger les victimes.
Vous-même, vous avez subi ça ?
Moi, j'ai toujours dit que je ne voulais pas me prononcer sur ce que j'avais pu subir ou ne pas subir, parce que sinon, le sujet va devenir ma personne et ma vie. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est ce que je peux faire et ce que je peux incarner pour toutes les autres femmes sur ce qu'elles ou ils, puisque des hommes subissent des violences sexuelles, ont pu vivre.
Il y a une autre affaire, je veux dire, qui est derrière, je veux dire, il y a beaucoup de prolongements, c'est-à-dire notamment sur les cyberattaques. C'est ce qu'on appelle l'affaire Mila de cette jeune femme.
Oui, bien sûr.
Vous avez dit, rien au monde ne justifie qu'une jeune fille de 16 ans soit menacée de mort, parce qu'elle a tenu des propos, du reste, après, on va même pas rentrer dans la polémique de Belloubet pour savoir s'il fallait tenir ses propos. Les cyberattaques, on voit que les jeunes et les jeunes femmes sont très très souvent victimes de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Beaucoup de choses. On peut faire des choses par la loi et par la pratique. Par la loi, moi, j'ai fait voter à l'unanimité le fait que maintenant, faire du cyber, profiter du cyberharcèlement en meute devient condamné par la loi. C'est-à-dire quand vous avez retweeté des messages de haine, quand vous les avez partagés, quand vous vous êtes mis en meute contre une personne, ce qui s'est passé dans le cas de cette jeune fille, eh bien c'est du cyberharcèlement en meute et depuis 2018, c'est condamné par la loi. Par ailleurs, en termes de pratique et non pas de politique publique, moi je vais vous dire à titre personnel, j'ai installé sur mon téléphone une appli qui s'appelle Bodyguard qui bloque tous les commentaires haineux et injurieux des réseaux sociaux. Je l'ai installé il y a 3 semaines, il a bloqué 610 commentaires, il a fait 610 signalements auprès de Twitter pour que ces commentaires soient retirés. Je ne les vois plus. Maintenant, quand quelqu'un m'envoie des injures,
ils
je ne les vois
plus. Ils ont été retirés ou pas?
Alors, je n'ai pas procédé à la vérification encore, parce que quand vous voulez accéder aux commentaires de haine, l'application vous dit ne regardez pas ces commentaires, et elle vous accompagne en tout cas pour faire face à ce flot de haine. C'est assez utile, en tout cas je le recommande comme utilisation personnellement. Maintenant, il faut que Twitter soit à la hauteur, et la loi Avia qui est en train d'être débattue permettra cela, parce que Twitter a une responsabilité. Twitter laisse passer tous les jours un nombre incroyable de commentaires, de tweets haineux, racistes, homophobes, antisémites, sexistes, des vidéos d'une violence insoutenable qui ne sont pas assez vite et parfois pas du tout retirées de Twitter.
Marlène Schiappa, en conclusion, vous avez le droit au canard enchaîné. Aujourd'hui, on relate certains propos que vous auriez tenus dans le cadre de ce sujet très complexe du congé de deuil parental lorsqu'il s'agit de la mort d'un enfant. Où vous aurez dit sur la boucle WhatsApp du gouvernement, vous avez dit, mais enfin, tout ça, c'est insensé. Et puis, moi, je dis que c'est inadmissible. Et virez-moi si vous considérez que je ne suis pas sur la même longueur d'onde. D'abord, est-ce que c'est vrai? Vous avez dit virez-moi. Moi, en tous les cas, je maintiens ma position.
Alors, j'ai pris position publiquement. En général, ce que j'ai à dire à qui que ce soit et publiquement, je le dis en on, comme on dit, ouvertement. C'est ce que j'ai fait là, c'est ce que je continue à faire. Et je déplore que des messages que je puisse envoyer à titre privé se retrouvent dans le journal. Mais je pense que sur ce sujet, on va essayer de ne pas refaire le commentaire du commentaire du commentaire. Chacun a dit ce qu'il avait à dire. Et maintenant, les députés sont au travail pour faire en sorte de trouver des solutions. Et c'est bien ça, l'essentiel.
Ouais, mais ils en veulent à Emmanuel Macron, en tout cas, les attaques...
Moi, je crois que le président de la République joue son rôle, comme toujours, et le joue très bien avec toutes les responsabilités qui sont les siennes. Chacun d'entre nous, moi inclus et tout le monde inclus, doit prendre ses responsabilités et ne pas oublier pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour les Françaises et pour les Français. Pas pour...
Merci beaucoup, Marlène Schiappa, et peut-être merci pour mettre des quotas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes et puis les luttes contre les discriminations, avec donc ce projet de loi sur le pouvoir des femmes au sein de l'économie et avec donc des quotas. Mais on sent quand même que vous êtes ouvert à la discussion et qu'à toute manière, il ne faut
toujours
pas penser le truc. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'Orage. On se retrouve demain, bien sûr, 8h15. Et dans l'Orage, 12h-13h. Bonne journée.